Depuis ce matin, nous l'observons ou nous le devinons, le domaine de la santé est un des domaines sans doute où les inégalités, évidemment, se font ressentir de manière très importante. Inégalité devant l'accès aux soins, bien sûr, mais d'abord sans doute inégalité devant la maladie, les pathologies, les problèmes de santé, et cela évidemment à tous les âges. On peut penser ensuite spontanément que les inégalités de revenus, de conditions de vie, sont elles aussi déterminantes, mais le dire comme cela ne suffit pas. Il faut évidemment entrer bien plus profondément et bien plus finement dans l'analyse. C'est pour ça que M. Louis Morin prend la parole avec nous cet après-midi. Il est directeur de l'Observatoire des inégalités. Merci, monsieur.
Bonjour à toutes et à tous. Merci à Christophe, que je salue au passage, de m'avoir laissé la place. Je pense qu'il était prêt à rester toute l'après-midi. Donc je le salue parce que c'est un vieux compère et c'est un des soutiens de notre petite association. Et donc c'est grâce à des gens comme lui que nous existons. Contrairement à ce que son nom indique, l'Observatoire des inégalités n'est pas du tout une structure publique. C'est une association très modeste. Et donc, vous ne sortirez pas dans cette salle, ceux qui ne l'ont pas encore fait, avant d'avoir soutenu l'Observatoire des inégalités.
Très bien.
Même si je n'ai pas de lecteur de carte bleue, vous verrez, c'est très facile sur votre smartphone. Vous êtes tous et toutes équipés. Vous pouvez nous faire directement un don en ligne. Voilà, c'est dit.
Si vous avez besoin, on a reçu tout à l'heure M. Taquet. Aucun problème.
Voilà, j'ai pas eu le temps de l'attraper, mais voilà, sinon je l'aurais fait. Ceci dit, c'est important qu'il existe des structures comme la Fondation et de façon beaucoup plus modeste, comme l'Observatoire des inégalités, pour apporter une contre-expertise indépendante des pouvoirs et des institutions, quels qu'ils soient. C'est peu développé en France. Et donc les initiatives qui existent, je pense que c'était intéressant de les avoir. Ça fait plus de 10 ans, enfin 15 ans que l'Observatoire des inégalités existe, et ça fait plus de 10 ans qu'on travaille avec Christophe sur la relation entre inégalité et mal logement. L'Observatoire des inégalités, son premier principe de fonctionnement, c'est de dresser un état des lieux des inégalités, de fournir des analyses. Et donc, dans cet état des lieux, c'est bien de se préoccuper des questions de santé. D'ailleurs, quand on pose la question aux Français, quelles sont les inégalités qui vous préoccupent le plus, la question de la santé arrive en premier avec le logement. Alors que dans le débat public, on assimile très souvent inégalité et inégalité de revenus. On entend beaucoup moins de chercheurs, de chercheuses, sur la question des inégalités de santé que certaines stars médiatisées des inégalités de revenus. Je ne donnerai pas de nom, parce que c'est des gens qui font des choses aussi très bien, évidemment. Par ailleurs, l'objectif de l'Observatoire des inégalités, c'est de dresser un état des lieux, c'est-à-dire dire ce qui se dégrade, mais comme l'a fait aussi Christophe tout à l'heure, dire aussi ce qui s'améliore. Notre rôle n'est pas en permanence de faire... l'état des lieux d'un déclin des inégalités de la santé en France, mais de dire ce qui va bien. Il faut être d'ailleurs prudent. Certains, à force de mettre en cause les qualités de notre modèle social, de le critiquer, souvent en plein de bonne volonté, finissent par avoir certains effets pervers de remise en cause de ce modèle-là. Sans citer de nom, vous l'aurez reconnu, le pognon de dingue, ça vient de ça. C'est nourri aussi par la critique de la pauvreté, du mal logement, etc. Si au bout d'un moment, on dit, vous voyez, tout ce qu'on dépense, et si vous nous dites en permanence que la pauvreté et le mal logement augmentent, ça peut arriver à ça, et donc il faut faire attention. Sur la question des inégalités de santé, moi, je suis pas un expert des inégalités de santé, ça fait 15 ans qu'on travaille sur les inégalités, et donc de santé, mais il y a des chercheurs bien plus renommé que moi dans ce dossier-là. Je vais juste présenter quelques éléments qu'on a rencontrés avec plein de trous, mais quelques éléments d'état des lieux. Et puis, surtout, je m'interrogerai sur les causes de ces inégalités de santé avec celles qu'on peut voir, nous, à notre niveau assez modeste. Et donc d'abord quelques chiffres sur ces inégalités sociales de santé. Alors je suis pas un fou furieux du PowerPoint, mais pour pouvoir vous montrer des données, je pense que c'est quand même plus pratique que vous puissiez les visualiser. Mais voilà, quand on observe les bilans de santé dentaire des enfants en classe de maternelle, vous voyez déjà l'écart sur les caries, vous voyez déjà l'écart qui sépare les enfants de cadre, où en gros on a des dents quasiment toutes saines, avec moins de 5% de caries. C'est la part du hasard et du niveau presque minimum de caries, alors qu'on est quasiment à un quart déjà des enfants de maternelle ouvriers qui ont des caries. Et puis chez les agriculteurs, les commerçants, chefs d'entreprise et puis les employés, on est au-dessus de 10%. Donc il y a déjà dans la petite enfance des écarts de santé. Si on le mesure avec cet indicateur là, j'aurais pu en choisir d'autres. Si on regarde l'obésité en CM2, alors vous retrouverez toutes ces données sur notre site internet, hein, dans la rubrique conditions de vie et ensuite santé. Il y en a bien d'autres à des âges différents, mais je voulais pas vous assommer sous les chiffres. Mais regardez l'écart de taux d'obésité entre les milieux les plus favorisés par le revenu et le diplôme, et puis avec un continuum qui augmente entre les cadres où on est un peu plus de 1%, 1,5%, et chez les ouvriers où on atteint quasiment 6% dès la classe de CM2. Hein. C'est un niveau très très jeune. Et il y a donc déjà à ces âges-là des écarts qu'on constate avec ces indicateurs. On a beaucoup moins d'éléments sur la dépression, sur la partie psy des inégalités. Et là, voilà, nous, on est à l'Observatoire des inégalités, comme l'ivrogne qui a perdu ses clés la nuit et qui les cherche sous le lampadaire, là où c'est éclairé, alors qu'elles peuvent être tombées n'importe où. Donc voilà ce qu'on a, par exemple, sur la question de la dépression. Et vous voyez deux choses. Vous voyez l'impact, l'écart qu'il y a entre les hommes et les femmes. Hein. C'est la probabilité par rapport des femmes, par rapport aux hommes. Quand vous voyez 1, c'est la probabilité de base. Et ensuite, c'est le rapport à la probabilité des hommes. Donc deux fois plus chez les femmes. Vous voyez l'impact des séparations. Et vous voyez aussi l'impact plutôt faible du revenu, d'ailleurs, mais en revanche, le chômage, un facteur 2 quasiment, pour contribuer à cette dépression. Donc c'est moins le niveau de vie que l'incertitude de la vie. En revanche, on sait hein, que ceux qui sont le plus souvent au chômage sont massivement, les trois quarts, 80% des chômeurs sont des personnes issues des catégories populaires, employés, ouvriers et peu diplômés. Et donc c'est eux qui vont être en première ligne de ces difficultés. Je ne veux pas faire un lien trop mécanique hein, entre chômage et dépression ou troubles psychiques, mais enfin, ces données-là montrent qu'il peut avoir un lien. Si on regarde peut-être la donnée, une des données principales qu'on pourrait trouver sur un observatoire des inégalités, pour moi, ce serait peut-être pas les inégalités de revenus, mais la durée de vie. La durée de vie, c'est quelque chose d'extrêmement important. Combien on vit. Alors attention, les chiffres que vous voyez, c'est l'espérance de vie à 35 ans. Hein. C'est pas l'espérance de vie à la naissance. Bien heureusement, là, on serait dans l'univers des gens qui sont à la rue. Mais là, c'est l'espérance de vie à 35 ans. Au passage, par rapport à ce que vient de dire Christophe, ben, il y a en quelque sorte 35 ans d'écart entre nous tous, en moyenne, et puis les gens qui vivent à la rue. Vous voyez l'écart considérable qui sépare, si on prend juste... j'ai pris juste les hommes, mais on a les mêmes écarts, mais avec des vies plus longues pour les femmes. Hein, mais c'est un peu plus de 6 ans. Qui sépare les ouvriers et puis les cadres supérieurs. Les inactifs, c'est compliqué parce que c'est un mélange de situations très, très, très différentes, mais les cadres et les ouvriers et les employés, à chaque fois, vous voyez l'écart qui existe avec les, les cadres supérieurs. Dans le temps, si on prend la période du milieu des années 70 et le début des années 2000, alors malheureusement, c'est les données les plus récentes que j'ai, hein, cet écart a eu tendance à s'élever jusqu'au début des années 90, et puis ensuite à se réduire. Donc je ne sais pas ce qu'il faut en conclure. Soit qu'il reste massif, cet écart de durée de vie est très grand, soit que ben voilà, c'est plutôt une moins mauvaise nouvelle, mais il a plutôt eu tendance à diminuer dans les années récentes. Mais là aussi, comme le disait tout à l'heure Christophe, par rapport aux données sur le logement, c'est des données qui mériteraient d'être actualisées. Voilà pour ces éléments de quelques éléments de constat sur les inégalités de santé. Maintenant, quelles peuvent en être les causes, au moins, qu'est-ce que moi je peux dire des causes que je vois. Et quand on pense inégalité de santé, on pense effectivement d'abord aux inégalités en matière d'offre de soins, du système de soins lui-même par rapport aux catégories sociales. Alors, quand on parle de politique et de politique sociale dans ce pays, il ne faut jamais oublier de dire que là où on est et que le système, le modèle social français, est en particulier dans le domaine de la santé et des soins, est sans doute l'un des meilleurs au monde. Il vaut bien mieux vivre dans notre pays que dans bien d'autres pays. Et ça, il ne faut jamais l'oublier, il faut toujours le garder en tête et le répéter, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on voit bien comment on pourrait être retourné à force d'en faire la critique. Ce qui n'empêche pas, évidemment, d'avoir une pensée un petit peu plus complexe et de mesurer, en quelque sorte, les écarts et l'importance de ces écarts. C'est Tocqueville qui disait il y a très longtemps que plus on se rapprochait, plus on était sensible à la question des inégalités. C'est peut-être pas pour rien qu'on est le premier pays où il y a eu un observatoire des inégalités. On est, et de loin, pas le plus inégal. Mais enfin, on est très sensible à ces écarts. Et ce qu'a dit tout à l'heure Christophe Robert, voilà, c'est des choses qui, pour nous, sont insupportables. Et on ne peut pas se rassurer en se disant « bah oui, mais par rapport à ce qui se passe en Angleterre ou en Allemagne, c'est bien mieux ». Non, on ne peut pas se rassurer de ça. Sur l'offre de soins, je vais prendre juste l'exemple des territoires et je vais parler juste de l'Île-de-France. Je ne parlerai pas du milieu rural, je ne parlerai pas de la question de l'accès même à ces soins-là, que je n'ai pas le temps de développer. Mais voilà, on a travaillé sur des données en Île-de-France sur la question de l'accès aux soins et regardez d'abord ces données sur l'espérance de vie entre les Yvelines, les Hauts-de-Seine, Paris et la Seine-Saint-Denis et la Seine-et-Marne. Alors on n'a pas un écart aussi important qu'entre cadres et ouvriers, mais vous voyez qu'en fonction de là où on vit, on a des espérances très inégales. Non pas, contrairement à ce que disent certains, parce qu'on vit dans un territoire, le territoire n'est rien, c'est pas le fait de vivre dans la Seine-Saint-Denis qui crée l'écart, c'est la composition sociale des habitants d'abord de la Seine-Saint-Denis et puis aussi peut-être en partie l'offre de soins. Vous avez ici la répartition des assurés CMU-C en 2015, données de 2015. Finalement, ce n'est pas un indicateur de santé du tout, c'est un indicateur de revenus. Si je vous avais mis la carte des revenus en Île-de-France, peu la même, vous voyez comment on a toute une pauvreté concentrée vers le centre nord-est de cette grande et immense Île-de-France, hein, des populations les plus démunies. Et puis, contrairement à ce qu'ont dit certains, les plus démunis vivent là, ils ne vivent pas dans les territoires les plus lointains de la France périphérique, mais très souvent dans ces grandes agglomérations, à des points, des territoires bien déterminés. En revanche, si on regarde les médecins généralistes, on voit moins les écarts, quoique si vous êtes attentif, et puis si j'avais grossi ma carte sur Paris, vous verriez que plus c'est foncé, hein, plus il y a de médecins généralistes, mais quand même l'Ouest parisien est un peu plus foncé que le Nord-Est. Mais enfin, du point de vue du généraliste, on est un pays qui est quand même très bien équipé et il est rare d'avoir des difficultés d'accès au généraliste lui-même, même si c'est pas, ça peut arriver. Non, mais rapporté à l'ensemble de la population et au niveau des comparaisons internationales, c'est bien sûr qu'il peut y avoir beaucoup de cas où on a du mal à avoir accès à un généraliste, mais dans l'ensemble de la population, est-ce qu'on peut en voir. En revanche, si on regarde, là j'ai pris juste un exemple des chirurgiens dentistes, vous voyez l'écart qu'il peut y avoir en termes d'implantation des chirurgiens dentistes par rapport à la population. C'est à peu près l'opposé hein, que de ceux qui sont assurés à la CMU complémentaire. Donc les plus pauvres et les chirurgiens dentistes sont massivement de l'autre côté de l'Île-de-France. Ça nous donne, ça nous dit quelque chose de ces écarts en termes d'offres de soins sur le territoire. Alors, ne me demandez pas ce que c'est que cette attaque. Aux alentours de Melun-Sénart, il y a une tache bleue où il y a une concentration de médecins. Je ne sais pas pourquoi on a cette concentration ici. Voilà. Sur cette question d'offres de soins, même si on a un modèle qui fonctionne plutôt bien et bien mieux qu'ailleurs, on voit bien qu'il y a des écarts. Et donc j'ai parlé de l'accès territorial à la présence de médecins, mais bien évidemment, après encore faut-il pouvoir en avoir les moyens et notamment avoir une prise en charge qui soit correcte. Cette offre de soins, elle est très souvent mise en avant quand on parle des inégalités. Néanmoins, en amont de ça, il y a toutes les causes sociales de ces inégalités qui jouent, à mon sens, de façon beaucoup plus déterminante. Quelles sont les différentes causes des inégalités de santé? Moi, j'en verrai trois grandes pour simplifier. D'abord, la question des revenus. Parce que si j'ai dit que c'était pas forcément tout ce qui comptait dans le domaine des inégalités, bien évidemment que le fait d'avoir un certain niveau de vie permet d'accéder financièrement à certains soins, même avec une amélioration de la couverture complémentaire. Les taux de renoncement aux soins restent élevés. Et puis la rapidité même auquel on peut avoir accès à ces soins, et puis ensuite à la qualité de ces soins eux-mêmes en fonction de ces niveaux de vie. Le revenu joue, mais joue aussi la régularité de ce revenu. Et là, la précarité du travail est un élément qui joue aussi sur la qualité de l'accès aux soins et le type d'entreprise dans lequel on va travailler, en fonction notamment de la couverture complémentaire qu'elle va vous assurer ou pas, a aussi un rôle déterminant. Et puis, de ce niveau de vie découlent les conditions matérielles de la vie. Et là, je peux abréger un petit peu mon exposé, mais c'est évident que, parce que Christophe Robert l'a très bien fait, de ces conditions matérielles de vie, et en particulier du logement, peuvent découler des troubles de santé, même si, n'oublions pas, l'extraordinaire amélioration des conditions de logement qu'on a pu avoir dans ce pays depuis les dernières décennies. C'est une des transformations majeures de notre pays que d'avoir su améliorer les conditions de logement. La France des années 60 et 70 était énormément en retard et avec des conditions de logement parfois effroyables, avec des bidonvilles aux portes de Paris qui n'avaient rien à voir avec les bidonvilles qui existent aujourd'hui. Il ne faut jamais l'oublier. Néanmoins, Christophe a bien décrit l'impact que ça pouvait avoir sur que ce mal logement, l'incapacité à se chauffer, l'incapacité à maintenir un logement sec, pouvait avoir, sans parler du bruit, pouvait avoir sur la santé. Quand on regarde les données de niveau de vie, vous avez ici l'espérance de vie des femmes et des hommes en fonction de leur revenu. Alors, on peut d'abord remarquer que là, pour le coup, même si c'est assez rare, on a plutôt un avantage aux femmes. Mais voyez l'écart. Là, on a 8 ans d'écart hein, 7 ans d'écart, disons, 8 ans d'écart qui séparent les hommes et les femmes. Hein, mais regardez l'écart entre les plus pauvres et les plus riches. On a quasiment 13 années d'écart, avec une espérance de vie pour les plus pauvres qui est de l'ordre de l'espérance de vie du Bangladesh. Donc le fait d'avoir un revenu est quelque chose qui compte, avec une progression très nette entre 500 euros de niveau de vie mensuel, tout en bas des minima sociaux, jusqu'à 2500 euros, et après plutôt une stabilisation, comme s'il fallait avoir un palier pour avoir accès à des conditions plus favorables. Alors il y a bien d'autres facteurs qui interviennent, hein, et notamment la pérennité du logement grâce au revenu, enfin avec le revenu qu'on va pouvoir avoir, qui va déterminer ces conditions de santé, mais bien d'autres éléments. Mais donc le revenu est une variable à prendre en compte. Le deuxième grand facteur pour moi des inégalités de santé, c'est la question des conditions de travail, des conditions matérielles de l'emploi, qui va déterminer l'usure physique. Et dans le débat sur les inégalités, la question de la pénibilité physique est, à mon sens, quelque chose qui est assez peu abordé, à part de temps en temps sur la question des retraites, mais on vous parlera très 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 rarement des inégalités de pénibilité physique au travail et psychique dans le cadre du développement des services, bien entendu. Mais la variable qui va cliver massivement en termes d'usure de santé physique, c'est bien évidemment les conditions, alors respirer des poussières, porter des charges lourdes un des déterminants majeurs, c'est le fait de travailler dehors ou dedans. Le fait d'être à l'intérieur ou à l'extérieur, d'être dans les intempéries, à l'extérieur en permanence avec le chaud ou le froid, et le fait d'être dedans qui constitue une protection dont les travailleurs du dedans ne se rendent peut-être pas souvent assez compte. Alors, il y a beaucoup de données sur les inégalités des conditions de travail, même si on en parle assez peu, mais là, voilà, on fait un indicateur de contraintes physiques avec porter des charges lourdes, respirer des poussières, etc. Et on regarde l'écart. Et vous voyez, on a cet indicateur, il va de 1 à 10 entre les ouvriers et les cadres. Pour moi, là, on a ici un des clivages tout à fait majeurs avec la question sans doute du statut de l'emploi stable ou instable entre les univers sociaux de la France contemporaine. Le fait d'avoir cette usure du corps au travail et pour les employés et les ouvriers et les cadres pour lesquels elle est bien moindre. C'est pour moi un des déterminants majeurs des inégalités et des tensions dans notre société, qui est très souvent sous-évaluée, avec une évolution sur les 10 dernières années qui est même plutôt négative, enfin qui est plutôt de l'ordre de l'incertitude des données. Il y a peu d'évolution dans ce domaine-là. Troisième grand facteur d'inégalité, après les revenus, la profession, le travail, c'est la classe sociale, osons ce vilain mot aujourd'hui, mais au-delà de l'emploi, du poste de travail, c'est pas seulement ça, c'est aussi le rapport au corps des catégories sociales, le seuil de la douleur, le seuil à partir duquel on va se dire, bah tiens, là j'ai mal, ou j'ai le droit de m'arrêter d'ailleurs, est-ce que je peux m'arrêter sans risquer de me faire virer par mon patron parce qu'il y a un chantier qui est important, et si je dis que j'ai mal, il va me dire, bah oui, mais t'es bien sympathique, mais dehors. Les modes de vie, l'alimentation, la consommation notamment de gras et de sucre, différentes suivant les catégories sociales, le capital social associé à ce statut social, le jeu des relations qui va faire qu'on va pouvoir avoir des contacts, et notamment en cas de souffrance psychique, hein, d'avoir un soutien qui peut aussi compter, et puis bien évidemment le rôle majeur du capital culturel. Le rôle de l'éducation à la santé. C'est pas l'éducation qu'on va donner de manière formelle à ses enfants sur la santé, ça peut jouer, mais c'est l'ensemble de dispositions qui font qu'on va s'interroger sur son corps, faire de la prévention et interroger ces enfants. Et on va faire attention aux pratiques qu'ils ont sur leur santé. Quelques éléments, la part pour illustrer ça, ce propos, mais la consommation, la part de fumeurs réguliers suivant la catégorie sociale. Hein, alors, à part chez les agriculteurs, ça a plutôt eu tendance à diminuer pour toutes les catégories sociales. Donc ça va plutôt dans le bon sens. Chez les agriculteurs, ça augmente parce que c'est une population qui vieillit. Donc peut-être que ça explique cela. J'ai du mal à, en tout cas, trouver une raison qui aille dans les autres sens. Mais par contre, vous voyez là aussi hein, l'écart entre catégories sociales dans la consommation de tabac. Si on essaye d'aller trouver des causes qui pourraient être à l'origine, alors une des causes. Alors là, je fais vraiment de la mécanique sur des choses que j'aime pas bien faire, mais le sentiment d'isolement, de se sentir seul, et voilà, alors il faut prendre beaucoup de pincettes pour faire ensuite des relations avec des états, par exemple, de dépression qu'on verra ensuite. Mais regardez chez les chômeurs, on y a plus de deux fois plus que chez la moyenne des salariés, et chez les ouvriers, on est aussi trois fois plus que chez les cadres supérieurs. Donc ça peut être aussi un des facteurs qui peut jouer. Quelques mots sur la question qui vous préoccupe davantage des inégalités de santé et des enfants. Donc j'ai montré quelques statistiques. On est quand même relativement démunis, nous en tout cas, ce qu'on a sur ce sujet. Et comme le disait Christophe, par rapport à ça, et notamment la nécessité de faire de la prévention, les enfants ne sont pas pauvres par eux-mêmes. C'est-à-dire que les enfants pauvres, ça n'existe pas. La question, c'est la question de leurs parents, de la pauvreté de leurs parents. Il y a une forme d'illusion de vouloir traiter de la question des inégalités de santé des enfants sans traiter la question des inégalités sociales de santé des parents, les enfants eux-mêmes. Bien entendu qu'il faut faire quelque chose pour les soigner. Mais la question des inégalités de santé, elles viennent des conditions matérielles ou autres de vie de leurs parents, des conditions de vie bien concrètes, comme je l'ai montré, du milieu social. Et puis après, en termes de politique de soins, on n'est pas démunis. On a des instruments comme la PMI ou la médecine scolaire, par exemple, mais des instruments qui n'existent pas dans d'autres pays. Bon, alors on peut les critiquer ou beaucoup moins, mais en tout cas qui existent. Il me semble que, en revanche, là où on est beaucoup moins bien, c'est la politique de lutte contre les inégalités sociales et notamment contre les inégalités d'éducation. Alors, sans faire de catastrophisme sur le système français, non, l'école française n'augmente pas les inégalités, mais en revanche, on est un modèle qui est très inégalitaire par rapport aux autres pays, et ces inégalités de ce modèle éducatif se répercutent sur les inégalités entre parents, qui se répercutent sur la santé, directement sur la santé des enfants. D'une certaine façon, si on voulait, alors effectivement, c'est à très long terme, mais réduire les inégalités de santé des enfants, il faudrait commencer par réduire les inégalités d'éducation et mettre en œuvre des politiques éducatives, non pas d'éducation à la santé, mais de réduction des inégalités dans le système éducatif. C'est peut-être là qu'il faudrait agir à la base. Et moi, mon sentiment, c'est qu'il y a une grande hypocrisie. Alors à la fois, on a un modèle social qui est protecteur, mais avec un discours très hypocrite par rapport à l'enfance en termes de politique publique et de lutte contre la pauvreté des parents des enfants, et non pas des enfants, avec la mise en avant de mesures, par exemple dans le plan pauvreté, comme un petit déjeuner à l'école, où on est dans la pure communication, alors qu'on continue à entasser des enfants dans les plus petites classes, à plus de 35 dans les plus petites classes, avec des conditions d'enseignement, c'est pas simplement pour leur niveau, mais des conditions de vie, donc finalement de santé. Alors est-ce que ça mène à des troubles plus graves après, je sais pas, mais en tout cas pour eux-mêmes, des conditions matérielles d'épanouissement de vie qui sont vraiment pas bonnes. Et donc on a un double discours dans ce pays où on ne supporte pas que l'enfant soit maltraité, les enfants pauvres, etc. Et puis que, en réalité, en termes de politique publique, quand je parlais de PMI, de médecine scolaire, on voit bien que c'est pas quand même la priorité des priorités des politiques des gouvernements. Et donc, d'une certaine façon, comme bien souvent en France, ce qui est frappant, c'est l'écart entre les discours et les actes. Et les formes d'hypocrisie sur la question des inégalités qui est profondément générateur de tensions, comme on le voit très souvent. Voilà, c'est très bref. On pourra en dire beaucoup plus. Merci beaucoup de votre attention. Je suis ouvert à toutes les questions.
Merci. Alors c'est très agréable là parce qu'on va avoir un peu de temps pour questionner toutes ces informations. Elles sont claires, mais nous ne les recevons pas toujours de manière aussi limpide qu'elles nous sont données. Donc est-ce que les uns ou les autres, vous souhaitez réagir dès maintenant ? Est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, de nouvelles formes de pénibilité au travail? Ce que j'ai derrière la tête en vous posant la question comme ça, c'est je vois bien, j'observe bien les conditions de travail dans certains secteurs d'activité qui se sont formidablement transformés, améliorés. Exemple, moi quand j'avais 18 ans, un sac de ciment, ça pesait 50 kilos. D'accord ? Aujourd'hui, ça pèse 30 kilos. Il vaut mieux porter un sac de 30 qu'un sac de 50. On s'abîme moins le dos, etc. OK. Ces conditions de travail-là, elles se sont améliorées et sans doute s'améliorent-elles encore. En revanche, dans d'autres secteurs d'activité, on n'a jamais autant parlé d'usure professionnelle et de burn-out. Et j'ai peine à croire que cette usure professionnelle et ce burn-out n'auront pas d'incidence sur l'espérance de vie. Donc n'y a-t-il pas de nouvelles formes de pénibilité?
Oui. Non, mais bien entendu, non oui. Seulement il y a des nouvelles formes de pénibilité au travail, mais en termes de développement des emplois, on est une société où l'emploi industriel a considérablement diminué, on représente à peu près que 10% des emplois, un petit peu plus, et donc les services sont considérablement accrus. Il y a une partie des travailleurs des services qui en réalité travaillent dans l'industrie, et donc ça s'est développé de deux manières, par la taylorisation de l'emploi des services, d'un côté, et puis par le fait du développement de ce type d'emploi. Néanmoins, quand on regarde en termes de parole publique, de poids dans le débat médiatique, la France ouvrière n'a pas encore complètement disparu. Elle existe encore, même si elle est moins nombreuse. Et puis, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que au nom du développement de la pénibilité, il me semble que, enfin, psychique, il me semble qu'on occulte en partie la question de l'usure physique des corps. Voilà. Oui, et que d'accord. Cette usure physique des corps, alors vous avez tout à fait raison, non seulement les poids ont diminué, mais les mesures de protection, de sécurité sont plus du tout les mêmes que ceux qu'on pouvait avoir, mais encore des. Il ne faut pas oublier ceux qui portent 30 kilos et qui ont pas de masque parce que le ciment, c'est très dangereux et ne portent pas de masque et se coltinent ces sacs de 30 kilos. Disons qu'en termes de visibilité, et notamment en termes de visibilité médiatique, on les voit, il me semble, assez peu. Après, c'est vrai qu'il y a aussi une pénibilité physique dans le secteur des services. Pensez à la question de la santé et le travail des aides-soignants, par exemple, qui peut être très pénible physiquement, et qu'on n'est pas tous les mêmes armés avec les mêmes capacités par rapport à cette usure physique.
Et l'ubérisation, trop tôt pour en
parler. C'est difficile. Non, on n'a pas les données, mais là, ça relève plutôt de la parcellisation extrême du travail et des conséquences que ça peut avoir sur pas seulement le fait parfois de travailler des heures dans une voiture à respirer les pots d'échappement, c'est déjà quelque chose, mais aussi d'avoir des revenus très faibles et très aléatoires, ce que ça peut vouloir dire sur la vie personnelle qu'on peut avoir. La question des inégalités santé, elle est extrêmement complexe et extrêmement globale. C'est aussi le fait de pouvoir... Un des clivages majeurs, ce que je citais tout à l'heure, c'est la question du statut, savoir ce qu'on est demain ou pas. Aujourd'hui, il y a une classe d'instables et une classe de stables. Et les stables ont besoin des instables pour travailler justement de ces Uber. Moi, j'ai un magnifique téléphone portable qui me permet d'avoir un Uber quand je veux directement. Je suis dans la classe des à peu près stables. Et ces instables ont une vie instable, qui veut dire parfois des difficultés de logement, qui veut dire des activités instables, des difficultés, par exemple, à prendre des congés, qui va avoir des conséquences sur leur état de santé, non pas de façon mécanique, bien entendu. C'est pas parce qu'on est chauffeur Uber qu'on est forcément en mauvaise santé, mais enfin, qui peut avoir un impact à terme. Ce qui est difficile, si, en particulier sur la question de la santé, c'est que ces territoires ruraux, les territoires vraiment ruraux. Il y a deux types de territoires ruraux. Il y a des territoires ruraux périurbains, où là, on a des jeunes actifs plutôt classe moyenne, et donc ils sont aux alentours de la moyenne d'âge national. Mais les territoires ruraux, rural isolés, c'est à peu près 5% du territoire français, où là, on a une population âgée. Et donc là, c'est très difficile de comparer. Il faudrait pouvoir comparer à niveau d'âge équivalent... Je pense qu'on a au moins autant de difficultés dans le territoire rural âgé que dans les quartiers d'habitat social, et si on prenait uniquement les populations âgées, parce que l'âge en soi est un déterminant majeur de l'état de santé.
Oui, alors c'était pas forcément une question, puis j'ai perdu un peu de plutôt un témoignage. Moi, je suis déléguée aux prestations familiales, et avec des rencontres de papa, de maman, très avec beaucoup d'envie de travail. Et pardon, je suis désolée, parler au micro, j'ai pas l'habitude. Je les trouve très courageux et ils multiplient les inégalités. Donc accès au travail, l'intérim que je trouve très violent, être appelé du jour au lendemain pour travailler la nuit à telle heure, comment on fait pour faire garder les enfants. Et derrière, nous on arrive en disant comment on fait pour garder les enfants, c'est pas bien. Enfin, voilà, cette force de violence qu'on leur envoie. Et la base de plein d'inégalités derrière, sur effectivement la santé. Voilà, petit coup de colère là-dessus.
Oui, non, mais c'est un peu le sens de mon propos. Les inégalités forment un système, c'est-à-dire que les facteurs d'inégalité se combinent entre eux pour produire plus ou moins d'inégalités. Et de façon plus ou moins directe. C'est vrai que c'est pas parce qu'on est en intérim qu'on va être en mauvaise santé. Mais néanmoins, c'est clairement un facteur qui n'est pas un facteur favorable. Et en termes de flexibilité des temps sociaux, il y a bien entendu l'état de votre contrat de travail. Alors, il y a d'une certaine façon une autre hypocrisie que de flexibiliser le travail en disant on veut réduire les inégalités de santé. Hein. C'est l'un et l'autre ne marchent pas ensemble. Donc on sait que quand on le flexibilise, ça va avoir des impacts. Il y a le statut, mais il y a aussi la flexibilité des emplois du temps. Beaucoup de gens à qui on annonce le dimanche soir par SMS, et notamment des femmes, hein, pour être clair, hein, massivement des femmes de la grande distribution, à qui on va dire... Tu vas venir travailler de telle heure à telle heure. Et ça, c'est pas sans répercussion sur la vie et allant ça sur la question de la santé, bien évidemment. Là aussi, pas de façon mécanique, hein, mais par un ensemble de facteurs qui vont se conjuguer avec des facteurs liés à la personne elle-même, hein, qui va développer ou pas certaines maladies, qui a plus ou moins certaines capacités de résistance. Tout n'est pas dans le social, évidemment. C'est pas parce qu'on recherche les facteurs sociaux que tout est dans le social. C'est un gros problème du débat public aujourd'hui, mais qui vont se conjuguer pour aboutir à des inégalités concrètes d'espérance de vie. Si tout était dans le social, les femmes et les hommes auraient peu ou prou le même milieu social, la même espérance de vie, voilà, parce que ça serait uniquement lié au milieu social. Mais non, c'est plus compliqué.
Oui, c'est juste une réflexion comme la personne précédente, mais c'est au niveau de la santé cette fois. C'est vrai qu'on dit toujours, on entend très très souvent glorifier le système santé français, qui a effectivement ses qualités, mais bon, moi ça fait un certain nombre d'années que je pratique le DPF, et je ne fais que constater de plus en plus gravement actuellement la dégradation de santé des familles avec lesquelles on travaille, que ce soit en termes de soins précis, mais aussi en accès aux soins. Donc voilà, c'était juste...
Oui, le problème du débat public, c'est que, enfin, à mon sens, c'est pas de dire qu'on a un bon modèle social, qu'on le glorifie, et qu'il faut arriver à penser la complexité. Mon propos, c'était aussi de dire qu'à force de dire que le système ne marche pas, on en arrive, et on va en arriver à des critiques beaucoup plus radicales de remise en cause de ce système. Donc il faut faire attention... on manipule quelque chose qui ressemble à de la nitroglycérine. Il faut à la fois faire cette critique, et je partage avec vous sur les dysfonctionnements insupportables de ce modèle de santé, parfois avec une santé à deux vitesses où ceux qui ont du fric ou ceux qui n'ont pas sont pas placés, et ça, on y est très sensible sous forme d'égalité, mais lui reconnaître aussi, reconnaître les avancées qui sont faites. Et lui reconnaître aussi les qualités, en partie dues aux qualités des gens qui travaillent dans ce système, hein. Parfois, sans compter leurs heures, pour des salaires qui ne sont pas très, très élevés, quand on n'est pas en haut de la hiérarchie. Là, alors là, si on voulait parler d'inégalité à l'intérieur du système de santé, on pourrait aller très très loin, parce que c'est un des systèmes économiques où les écarts de rémunération sont monstrueux, enfin, sont, par rapport à d'autres systèmes. Mais voilà, en tout cas, une pensée, à mon avis, il n'y a pas de pensée sur les inégalités si on n'est pas capable de produire une pensée complexe qui essaye de faire, de dire ce qui fonctionne et ce qui dysfonctionne. Et si dire qu'il y a des choses qui fonctionnent, c'est glorifier, moi non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit glorifier. Je pense que simplement essayer d'avancer. Et je pense qu'on, dans la critique des inégalités, on ne peut avancer que si on est capable de faire ce travail-là. C'est-à-dire de dire, d'un côté, oui, mais alors après, c'est évidemment plus compliqué à comprendre.
Une dernière question ?
Ben, c'est plutôt une remarque, parce qu'en même temps, je trouve que les chiffres parlent d'eux-mêmes sur la question des inégalités. Dans votre discours, ce qui me dérange un peu, c'est, là, même les derniers propos sur le risque explosif de dénoncer les lacunes du système actuel. Je pense que qu'on peut être que d'accord avec vous sur le fait qu'on a un système en France, un système de santé qui est encore relativement protecteur. Pour autant, ça n'empêche pas de dénoncer comment des dérives sont à l'œuvre, comment le manque de moyens est de plus en plus probant. Et je trouve que du coup, votre discours, moi, je le trouve un peu dangereux. Parce qu'au nom de sauvegarder un système, il faudrait montrer ce que vous nous montrez. Et puis dire que ça va pas si mal au nom de la complexité. Et puis il y a eu une jolie petite intervention sur les inégalités qui amènent un système. Je pense que c'est peut-être un petit peu aussi inversé, mais là je suis à peine taquine sur la question. Votre discours, je le trouve très dérangeant ici, avec la pratique quotidienne qui est la nôtre.
Je pense que je suis pas sûr qu'on soit si éloigné dans ce que vous dites, hein, si j'ai bien compris, du constat. Après, on n'est pas d'accord sur le danger. Voilà. Bon, mais c'est bien, c'est ça la démocratie, que d'avoir des avis différents. Moi, je suis préoccupé par certains discours. Je suis préoccupé par certains discours qui amènent au pognon de dingue, qui amènent à la privatisation de l'école. Hein. Quand on dit l'école française augmente les inégalités, vous allez bien, on n'a qu'à la privatiser, ça va aller mieux. Et donc, auprès de professionnels notamment, je pense que il faut être conscient de ça. Et puis après, de toute façon, moi, je ne suis pas le monsieur plus des inégalités. Je ne suis pas là pour vendre. Et finalement, c'est très facile de faire vendre et de faire applaudir en poussant les choses sur les inégalités et en exagérant et dramatisant. Moi, peu m'importe. C'est pas mon travail. mon travail, c'est d'essayer de faire la part des choses, d'avancer en disant, ben voilà, même si c'est plus nuancé, d'essayer de faire un constat qui est plus proche. Alors là, je ne suis pas d'accord avec vous non plus, c'est sur les chiffres qui parlent d'eux-mêmes, parce que non, les chiffres, c'est moi qui les fais parler. J'aurais pu choisir d'autres chiffres. Les chiffres ne parlent pas d'eux-mêmes. Les chiffres, ils sont à prendre dans un contexte et ils sont à critiquer. Et il faut à la fois produire ce constat et puis la critique de ces données-là. Mais voilà, c'est je conçois que, notamment quand on est dans la réalité concrète du terrain, on s'insurge devant les situations d'inégalité, et notamment d'inégalité de santé pour les jeunes enfants, parce que c'est complètement insupportable, c'est dans nos valeurs. Néanmoins, voilà, après, c'est quelle démarche on veut avoir. Est-ce qu'on veut avoir une démarche militante, de propagande, et de dire, voilà, appuyons là où ça fait mal, ou est-ce qu'on veut essayer de dresser un état des lieux, ce qui est plutôt mon propos. Voilà. Merci beaucoup.
Merci.